Radio Spirale. Aujourd'hui, un portrait de Patrick Straram par Jean-Marie Apostolides. La rencontre avait lieu dans les locaux du CRILC de l'Université de Montréal le 8 avril 2011.
Bon, bien bonjour. Merci d'être venu ici aujourd'hui. Écoutez, pour vous présenter très brièvement Jean-Marie Apostolides, j'ai envie de vous demander c'est quoi le lien entre le théâtre, le grand théâtre classique du 17e siècle, Tintin, et l'international situationniste et lettriste. Évidemment, la réponse, c'est Jean-Marie Apostolides, qui est ici, entre autres, pour une soutenance de thèse qui va porter sur, qui porte en fait sur l'œuvre de Guy Debord. Et au même moment, on en profite parce que c'est avec Boris Donné, celui qui nous fait redécouvrir l'œuvre de Patrick Straram. Hein, il a édité, entre autres, Les bouteilles se couchent, qu'on croyait perdu et qu'il a retrouvé dans les archives de Patrick Straram. La veuve noire, blanche et noire, un peu détournée, et Lettre à Guy Debord. Et donc, le titre de sa présentation aujourd'hui est Patrick Straram, l'exil intellectuel. Sans plus tarder.
Merci Gilles. Merci à tous ceux qui ont permis que je vienne ici, donc le Centre de littérature québécoise, le département de littérature comparée, particulièrement Thierry, et vous tous qui êtes ici pour cette brève présentation. Je n'ai pas de texte écrit. Je pense plutôt essayer de vous transmettre quelques impressions sur Patrick Straram, dont je commence à bien connaître la vie, le travail. Et à travers le cas de Straram, j'ai essayé de me poser la question qui peut-être me touche d'un certain point. Qu'est-ce que un Français arrivant de France pouvait comprendre d'un côté, pouvait faire de l'autre au Québec dans les années 60, même si Straram, lui, est arrivé avant. L'élément autobiographique qui sous-tend ma démarche sera minuscule, je ne suis pas là pour parler de moi, mais plutôt pour parler de Straram. Mais je crois que ça peut aider à comprendre ce qu'a été la vie de Straram ici, son rôle marginal, mais essentiel néanmoins dans la culture ou la contre-culture québécoise. Alors, je serais peut-être appelé à employer des mots qui peuvent sonner comme des jugements de valeur, ne les prenez pas comme des jugements de valeur, au moins au sens étroitement moral du mot, mais plutôt comme des constats sociologiques. Par exemple, si je vous dis que Straram a raté sa vie, j'en suis parfaitement convaincu, il n'y a pas dans ce jugement de réprobation, de volonté de dénigrement, de sentiment que je serais supérieur à ce garçon. Mais néanmoins, quand on s'implique pendant des années à faire des travaux sur quelqu'un, autant dans le cas de Hergé, que Gilles a eu la gentillesse de mentionner, que dans celui de Straham, eh bien, on finit par avoir un rapport intime qui autorise ce type de jugement. Et puis, je crois qu'en vieillissant, notre propre vie fait sens. Vous n'en êtes pas encore là, Gilles. Et puis, on a besoin, en un sens, de faire le bilan d'une vie, la nôtre, et aussi celle des gens sur lesquels on travaille. Donc pour moi, en particulier, Hergé, Debord, Straram, Stegloff, tous ces gens dont j'ai cherché les archives, j'ai découvert des documents, je crois, et qui me permettent de mieux comprendre leur démarche. Plusieurs d'entre vous ne connaissent sans doute pas Patrick Straram. Il est né en janvier 1934 à Paris. Il est mort au Canada le 3 mars ou le 5 mars, le 3 je crois, 1988. Il a vécu toute une partie de sa vie au Canada, d'abord en Colombie-Britannique et puis ensuite au Québec. Et son histoire recouvre l'histoire culturelle du Québec, et en un sens, il est un lien entre une certaine histoire française et une histoire québécoise. Un lien peut-être complexe, ambigu, mais je dirais que le travail intellectuel ne dépend pas forcément de la réputation qu'ont tels ou tels auteurs. Dans une optique sociologique, qui est un petit peu la mienne, il n'y a pas forcément des auteurs plus importants. Ou plutôt, j'aimerais plutôt dire que cette optique n'a pas forcément à tenir compte de l'image sociale de tel ou tel auteur. Il se peut qu'un cas particulier apprenne plus sur une époque qu'un cas général. C'est une optique sociologique. Il est évident qu'au niveau littéraire, Straram n'est pas Julien Gracq, Jean-Paul Sartre ou Gaston Miron. C'est pas le même niveau, c'est pas la même pointure. Mais il reste néanmoins que c'est un personnage important. Alors, je ne déborderai pas le temps qu'on m'a généreusement imparti. Donc, je me concentrerai simplement sur certains aspects. Et si possible, parce que ça m'intéresse, sur le malentendu franco-québécois de la fin des années 50 et des années 60. Ce malentendu, à mon avis, remonte à loin, à des choses qui sont à la fois connues et pas connues. Alors, je vais dire quelques généralités, puis après, j'entrerai dans la vie de Straram également. Je dirais, et ne connaissant pas toute l'histoire ou toute la littérature québécoise, je ne sais pas si quelqu'un a pensé à cela, mais à la suite de 1760, il se produit un phénomène que vous connaissez tous ici, qui est la fuite des élites françaises liées à l'aristocratie, et le fait que les paysans, les habitants, se sont retrouvés volens-nolens avec comme élite les prêtres. Pour le meilleur, sans doute, et pour le pire aussi. Là, c'est un jugement de valeur. Mais cette rupture avec l'aristocratie seigneuriale qui avait, elle aussi, fondé le Canada français, a plusieurs conséquences dans la mentalité collective québécoise ou canadienne-française, canadienne même. D'une part, un ressentiment très fort, qui était très fort dans les années 60, qui doit toujours, à mon avis, exister aujourd'hui. Et ça, c'est connu. Mais quelque chose qui est moins connu, peut-être, parce que c'est inconnu des deux côtés de l'Atlantique, c'est les conséquences de la rupture avec l'aristocratie. Je crois, pour ma part, qu'en France, la majorité des gens, des intellectuels, ne connaissent pas l'héritage aristocratique qui pèse encore sur certains pays, je dirais l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, la France en particulier. Ça n'a jamais été analysé d'une façon claire. Alors évidemment, il y a les gens folkloriques du 16e arrondissement avec leurs particules. Ils sont grotesques, ils n'ont aucune valeur économique. Ce sont des UFO. On les regarde avec un mélange de pitié et de sourire amusé. Ils ne comptent pas. Ce n'est pas cela que j'appelle l'héritage aristocratique. To make a long story short, je vous dirais que pour moi, et ce n'est pas quelque chose que je lance en l'air, j'y ai beaucoup réfléchi, l'héritage aristocratique français se réfugie dans le milieu intellectuel. Et cela peut paraître paradoxal, pas seulement le milieu intellectuel lié à la droite, comme c'est le cas, puisque la droite est dominante dans la vie intellectuelle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, mais dans la gauche et dans l'extrême gauche. Nous verrons cet après-midi, quand on discutera la thèse d'Alexandre, que Debord est un héritier des valeurs aristocratiques. Et lui, contrairement à beaucoup d'autres, il le sait. Il le cache, mais il le sait. Alors, il me semble, je schématise évidemment, ça demanderait à être nuancé, mais si vous associez la fonction de l'intellectuel, Sartre, Camus, comme une réincarnation à la fois du bouffon de cour traditionnelle, j'en parle tout de suite parce que ultimement ça sera la conclusion, même si je n'y arrive pas, que Straham, au fond, il a repris le rôle du bouffon au Québec. Mais si l'intellectuel, son rôle, c'est d'être à la fois bouffon, rappelez-vous Sartre sur son tonneau, en train de vendre la cause du peuple, faisant rire à la fois, mais en même temps ayant une fonction sociale essentielle. Mais en même temps de l'aristocratie, et si le Québec est un pays qui s'est coupé de l'aristocratie, la fonction de l'intellectuel demeure, dès le départ, impensable. Non seulement impensable, mais injouable. Donc, je vais schématiser peut-être un peu pour provoquer. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de partager cette opinion, mais je dirais qu'il n'y a pas d'intellectuel au Québec. Il ne peut pas y avoir, dans cette optique, d'intellectuel au Québec. Donc, être intellectuel au Québec, c'est soit se soumettre, soit s'exiler. Dans les années 60, certains intellos, ici, je mets intello entre guillemets, évidemment, je pense à Victor Lévy-Beaulieu, à Léandre Bergeron, se disaient, se proclamaient proches, plus proches des Américains que des Français. Leur travail, leur comportement était fondé sur une haine de la France, viscérale d'ailleurs, dans le cas de Léandre et même dans le cas de Beaulieu, et se proclamait proche des Américains. Quand j'écoutais ça, ça m'irritait, ça me semblait une trahison, ça me le semble moins aujourd'hui. Maintenant, après plus de 30 ans de vie aux États-Unis, je comprends mieux. Les États-Unis, comme le Québec, comme le Québec d'après 1760, est un pays qui se fonde contre l'Angleterre, contre les valeurs anglaises et contre l'aristocratie anglaise. Le pays est donc fondamentalement, non seulement dans ses lois, mais dans ses mœurs, anti-aristocratique. Il est lié à une vision démocratique qu'Alexis de Tocqueville a été le premier à analyser d'une façon remarquable et qui existe encore aujourd'hui et qui tempère tous les mœurs, tous les comportements, y compris dans les domaines où la compétition doit être importante, et qui fait que, au sens européen du mot, il n'y a pas non plus d'intellectuels aux États-Unis. Il y a des scolaires, des universitaires, à mon avis souvent, pas toujours, mais souvent de très grande qualité, mais il y a un refus, même chez ces gens-là, même chez les artistes, d'entériner leur rupture avec la communauté et le communautarisme. D'où le fait que, en France, vous allez pouvoir voir à Paris fréquemment, vous en avez sans doute tous fait l'expérience, des grands noms du cinéma, du théâtre, se promener dans la rue, aller dans les cafés, dans les magasins, où personne ne les embêtera, parce qu'ils sont des représentants de cette aristocratie qui a le droit de vivre et qu'on laisse. Personne n'ira attraper Piccoli ou Depardieu en lui demandant « tu me donnes un autographe ?» Tandis qu'aux États-Unis, où foncièrement on est égaux les uns aux autres, si quelqu'un de connu, c'est-à-dire qui, quelque part, a transgressé cette démocratie de base, il va être embêté parce qu'il aura des privilèges qu'il faudra qu'il partage avec les autres. Donc, tu dois me donner un autographe, tu m'appartiens quelque part à mon public, c'est moi qui ai fait ta réputation, c'est moi qui t'ai permis d'être ce que tu es, moi, l'homme ou la femme de base, je veux que tu partages ça avec moi. Et ça, c'est pour ceux d'entre vous ou d'entre nous ici qui connaissons bien les deux pays, quelque chose de fondamental mais qui n'est écrit nulle part. Je ne vais pas m'étendre sur Léandre Bergeron, pour lequel j'ai une estime modérée, c'est un euphémisme, mais c'est un homme qui a écrit à propos du Québec « Tout le monde monte ou personne ». Donc il y a un sentiment, et il a été représentant de la pensée, entre guillemets, québécoise, pendant des années. Il ne faut pas en avoir honte, c'est une partie du pays, mais le pays s'est reconnu dans un pantin intellectuel de ce niveau-là. Donc, c'est que quelque part, Léandre Bergeron, ça leur parlait. Ça leur parlait, on n'ira pas jusque-là aujourd'hui dans l'analyse, mais il est évident que ce monsieur qui, au départ, a reçu la même formation que son frère Henri, qui va promouvoir de force une langue qui s'est forcée à parler alors qu'il parlait le bon français de tous ceux qui ont été éduqués dans les années 50, en indique long sur le refus de la transmission que la génération lyrique, comme François Ricard l'a appelé, a fait à l'égard de la nouvelle génération qui l'a suivie. Cette trahison de la génération lyrique, grosso modo des baby-boomers qui ont refusé de transmettre à la génération suivante ce qu'ils savaient afin de mieux les enfermer à la fois dans leur nationalisme et dans leurs valeurs, à son pendant en France, ma génération, les 68ards, les baby-boomers, où de même nous avons collectivement, pour garder le pouvoir, et nous l'avons encore aujourd'hui d'ailleurs en France, refusé de transmettre à la génération suivante ce que nous savions. Ça, c'est... Je ne dis pas que les baby-boomers ou la génération lyrique n'a eu que des mauvais côtés. Au contraire, ils ont eu des bons côtés. Hein. En France, ils ont fait 68, au Québec, ils ont fait la Révolution tranquille. Mais parmi les mauvais côtés, il y a cette tentative volontaire de ne pas transmettre ce qu'ils avaient reçu afin d'enfermer la génération suivante dans un carcan idéologique d'où elle n'est jamais sortie, puisqu'elle n'avait pas les outils pour penser sa situation. Ça, ça m'éloigne un tout petit peu de Patrick Straram. Alors Patrick, pour le comprendre, il faut comprendre d'où il vient. ou plutôt pour comprendre ce qu'il a compris et surtout ce qu'il n'a pas compris du Québec, il faut comprendre d'où il vient. D'abord, il est de religion protestante. Le Québec est dans sa grande majorité de religion catholique. Patrick, ça paraît bizarre puisqu'il a été connu sous le nom de Bison Ravi. Il vient de la grande bourgeoisie artistique française. Il a été élevé lui-même dans un mythe très curieux que je vais vous résumer en quelques mots et surtout dans des circonstances historiques très curieuses dont je vous parlerai parce que c'est pas seulement important pour Straham, c'est important pour tous les gens qui sont de la même génération, c'est-à-dire qui sont nés dans les années 30. Alors, je vais commencer au niveau individuel. Le grand-père de Patrick est un chef d'orchestre d'origine allemande qui s'appelle Marat. Ils vont transformer leur nom de famille en Straham, qui est l'anagramme de Marat, qui va apporter en France toutes les nouveautés musicales du début du XXe siècle. Il va fonder ce qu'on appelle les concerts Straham, qui sont une initiation à la musique contemporaine, alors que la majorité des Français n'ont pas été plus loin que Schubert ou Beethoven. Et cet homme va avoir, avec une chanteuse américaine, une relation extrêmement curieuse, d'admiration, une femme mariée à un industriel des machines agricoles aux États-Unis. Et cette femme, par admiration pour Heinrich Straham, le chef d'orchestre, va lui construire à Paris trois immenses théâtres avec le fric des machines agricoles qui sont les théâtres des Champs-Élysées. Alors, qui comportent le grand théâtre des Champs-Élysées dans le style Art Nouveau. Si vous le connaissez, c'est un théâtre extraordinaire, un bâtiment aujourd'hui considéré comme monument national, la comédie des Champs-Élysées et le studio des Champs-Élysées. Tout ça pour la faire chanter, elle, bien évidemment, comme dans le film d'Orson Welles, Citizen Kane. Mais l'impression d'être des gens importants. Et le fils de cet Heinrich Straham, le père de Patrick, qui s'appelle Eric, lui, va déjà avoir le sentiment d'être ruiné, de ne pas être à la hauteur de son grand-père. Et petit à petit, alors qu'au départ, ils ont la propriété des théâtres des Champs-Élysées, la ruine va s'abattre sur eux, le père de Patrick va être obligé de prendre une job, et le théâtre des Champs-Élysées, qui ne va pas recevoir au début de subvention du gouvernement français, ne va pouvoir vivre que par le fait que le théâtre des Champs-Élysées est ouvert à toutes les troupes du monde, à tous les orchestres du monde, qui vont payer cher pour se faire connaître à Paris. Et c'est de ça qu'il va survivre. Mais ça va avoir des conséquences monumentales sur le jeune Patrick gamin, parce que dès l'enfance, dès l'âge de 10 ans, il a une connaissance musicale monumentale de la musique classique, de la musique contemporaine, du jazz. En réalité, il ne le saura jamais, il mourra sans le savoir, mais sa vraie vocation était d'être musicien. Son père et lui reçoivent tous les jours des billets de théâtre gratuits pour tous les théâtres parisiens, pour toutes les cérémonies culturelles parisiennes. Ils sortent tous les jours. Parfois, ils voient des spectacles deux fois par jour. Et il est dans un milieu social où il connaît à la fois des écrivains un petit peu en rupture de banc. Je pense à Georges Arnaud, par exemple, ou même à Blaise Cendrars, des écrivains d'avant-garde qui n'ont pas encore fait leur chemin. Patrick Straham, quand il est en France, à la suite d'une connerie qu'il fait, est mis dans l'asile d'aliénés de Ville-Évrard avant son service militaire, là où Antonin Artaud ira aussi. Il écrit à Jérôme Lindon, le directeur des éditions de Minuit, et à Samuel Beckett, qui lui permettent de sortir dans les années 50. Donc vous voyez, il a une culture absolument gigantesque. Quand il va arriver ici, tout ce bagage sera nul et non avenu parce qu'il n'a pas lu Menot, maître draveur. Et je crois d'ailleurs qu'il n'ira jamais Menot, maître draveur. Ou Marie Calumet. Bon, c'est pas de la littérature méprisable, mais c'est pas du tout la même chose. Alors, autre chose qui me semble plus important. Patrick, il naît en 34. Il appartient à une génération que j'appelle la génération invisible, à laquelle appartiennent à la fois Debord, par exemple, ou Derrida. Évidemment, il y a des relations à faire. Je ne dis pas ça pour M. Trudel, mais il y a des relations à faire entre Debord et Derrida, qui apparemment n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, mais en fait sont d'une même génération, se trouvent confrontés aux mêmes problèmes et y répondent par certains côtés de la même façon. Mais Patrick, lui, c'est pas pareil. Patrick, il va quitter l'école en classe de troisième, ce qui serait l'équivalent de quoi ? Secondaire 4 ? Michel, qu'est-ce que vous en pensez ? Secondaire 4, vers 14-15 ans. Et son père va le faire voir, ne faites jamais ça à ceux qui ont des enfants, par un psychologue qui va recommander de le laisser faire les choses qu'il a envie de faire. Il va se retrouver à Saint-Germain-des-Prés, dans un groupe sur lequel, avec Boris Donnet, que vous avez eu, Gilles, la gentillesse de nommer, nous préparons un gros bouquin qui devrait sortir en principe en janvier ou février 2012. Il va se retrouver à Saint-Germain-des-Prés dans un groupe qui n'est pas le groupe officiel qu'on connaît des existentialistes. C'est un groupe qui n'a pas de visibilité jusqu'à présent, qui, nous l'espérons, en aura après notre travail, parce qu'on a vraiment trouvé beaucoup d'archives et beaucoup de documents, de jeunes gens et de jeunes filles qui sont des nihilistes complets, qui vont, par exemple, faire un rassemblement qu'ils appelleront le rassemblement des ratés, qui, à 17 ans ou 18 ans, se définissent tous comme des ratés et sont littéralement des désespérés dont toute la conduite est suicidaire. Ce sont à la fois des jeunes gens doués qui se croient d'un côté l'élite du monde, qui se prennent pour des aristocrates, mais un peu comme des aristocrates après 93, ils ont le sentiment que le monde dans lequel ils vivent n'a aucune valeur, qu'il se prépare à la Troisième Guerre mondiale, tout le monde attend la Troisième Guerre mondiale, et ils n'ont qu'une envie, c'est de détruire ce monde et de se détruire eux avec ce monde. Et c'est ces gens-là que Patrick Strahan va fréquenter pendant des années. C'est une faune très curieuse à laquelle on n'a pas prêté attention, qui n'est pas démographiquement dominante, mais spirituellement qui va avoir une importance monumentale dans les choses qui vont suivre, puisqu'on va les retrouver jusque en 68, en réalité. Et donc, vous voyez ce pauvre Strahan, 16 ans, hyper cultivé, beaucoup de problèmes personnels de type névrotique. Il est énurétique aussi. Ça veut dire il pisse au lit. Et il va pisser au lit jusqu'à après 20 ans, ce qui est pour lui une blessure narcissique énorme. Qui a les ambitions d'être un nouveau Georges Arnaud, un nouveau Blaise Cendrars, qui commence déjà à écrire des choses qui sont pas forcément publiables, mais qui sont certainement pas méprisables pour un garçon de 17 ou 18 ans. Si vous avez la curiosité un jour d'aller dans ses archives à Montréal, vous verrez que ses textes ne sont pas méprisables pour 18 ans. Bon, quand on a 30 et qu'on n'a pas été plus loin, là, ça commence à poser des doutes. Mais à l'époque où il commence, pas du tout. Il vit dans la rue. Ce que sa famille ne sait pas, je ne l'ai pas dit à son frère, mais il se prostitue pour vivre. Il est relativement beau garçon, il couche avec des vieux messieurs, sans être homosexuel pour autant, pour bouffer, pour boire. Il se saoule la gueule tous les jours et il mendie pour essayer de survivre. Quand il n'en peut plus, il retourne chez lui, mais il haït son père. La haine du père est un sentiment essentiel, collectif. Le cas du Québec est différent parce que ce n'est pas véritablement le Québec traditionnel, je crois, encore une fois, au risque de vous choquer, une société patriarcale. C'est plutôt, c'est plutôt la mère, effectivement, la momin. L'autre jour, je suis allé à une librairie, c'est une anecdote où j'ai des amis qui se... tous québécois, on parlait de nos blondes, alors aucun d'eux n'avait une blonde québécoise. Alors je leur dis, mais pourquoi vous n'avez pas de blonde québécoise? Ben, ils me disent, parce que nous, on a eu une mère québécoise. Alors moi, je leur dis, moi, j'ai pas eu de mère québécoise, donc j'ai une blonde québécoise. Et il y en a un qui me sort et me dit, oui, toi, t'as pas eu la chance d'avoir une mère québécoise, mais ton fils a cette chance-là. Voilà. Allez, fin d'anecdote, on revient à Strahan. Strahan, il va donc se trouver en porte-à-faux dès le départ, dans une situation totalement désespérée, où il va faire connerie sur connerie, il va agresser par exemple des gens dans la rue avec un couteau, on va l'envoyer à l'asile, son père, pour lui éviter, quand il va faire son service militaire, d'être dans un bataillon disciplinaire, c'est-à-dire d'être totalement détruit. Il va, à ce moment-là, donc, il est un mélange d'immaturité intellectuelle et de grandes connaissances intellectuelles, d'énormes ambitions puisqu'il se rêve un grand penseur, un grand écrivain, et d'absence totale d'ambition parce qu'il ne se donne jamais les moyens qu'il faut pour réussir, c'est le travail quotidien. Et je disais qu'il haïssait son père parce que c'est un phénomène collectif en France qui n'est pas là encore analysé mais qui mérite de l'être. La France est un pays souvent partagé entre l'héroïsme et la victimisation. Sans vouloir parler de mes ouvrages, comme c'est un ouvrage important que j'ai mis 10 ans à faire, je vous signale l'existence de ce livre. Et la génération de mes parents, celle qui va faire la guerre, ou plutôt qui ne va pas faire la guerre, d'un côté... et éduqués dans la culture de l'héroïsme, puisque leurs parents, mes grands-parents, font la guerre de 14 et se conduisent en héros, reçoit la culture de l'héroïsme de leurs parents et de la littérature, Corneille par exemple, va nous la transmettre quand on est petit, mais nous allons comprendre très rapidement, même intuitivement, même si c'est jamais analysé, que pendant la guerre, non seulement ils se conduisent comme des lâches, mais qu'ils participent au plus grand crime que l'humanité ait commis jusqu'à présent, c'est-à-dire l'Holocauste. Donc il y a une contradiction pour les gens de ma génération, les baby-boomers, ceux qui sont nés à la fin de la guerre et dans l'immédiate après-guerre, entre la culture que nous recevons de nos parents et le fait qu'on ne peut pas leur en parler, qu'ils ne nous en parlent pas, ils ne nous disent jamais ce qu'ils ont fait pendant la guerre. Moi, je me rappelle quand j'avais 16 ans, pour provoquer, mais j'étais déjà un peu un provocateur, dans la petite ville où j'étais, je chantais « Maréchal, nous voilà », j'étais le seul à le savoir, les gens me regardaient comme ça, et puis je les regardais en souriant, je disais « mais c'est pas moi qui ai chanté ça pendant la guerre, c'est vous ». Et là, ça se terminait comme ça. Donc, une méconnaissance, un refus d'admettre ce qu'ils avaient fait pendant la guerre, tout ça s'est réglé en 68. Hein. 68 n'est pas une révolution du prolétariat comme Debord va le prétendre. C'est un règlement de compte entre deux générations où on fait un procès à la génération de nos parents en se posant, en se mettant à la place des victimes. On descend dans la rue en criant « Nous sommes tous des Juifs allemands ». Et où on les dénonce comme incompétents, incapables et lâches. Et la génération de mes parents en est tellement convaincue que du jour au lendemain, ils renoncent à leur pouvoir. Ils disent, tenez, voilà, les clés du pouvoir, vous les voulez, vous les prenez. Donc, à 22 ou 23 ans, dans tous les milieux, journalistiques, intellectuels, tous les gens qui ont 22 ou 23 ans prennent le pouvoir et le gardent jusqu'à aujourd'hui. Regardez les noms, ils sont encore au pouvoir aujourd'hui. Et les parents ont baissé leurs culottes parce qu'ils savaient fondamentalement qu'ils s'étaient conduits comme des lâches, qu'ils étaient coupables et qu'ils avaient besoin de cette sanction, alors que le général de Gaulle était revenu, lui qui avait été un véritable résistant, en leur disant « mais vous êtes tous des braves, vous êtes tous battus comme des braves, seuls quelques salopards qu'on va punir se sont conduits comme des lâches, mais vous les Français, vous êtes tous des braves ». C'est un mensonge fondamental, et ce mensonge n'a pas vraiment eu prise sur la génération de mes parents, d'où les conséquences mai 68. Mais Patrick, il participe pas à ça. Patrick, il est coincé, lui, d'abord il est plus âgé, il est coincé dans ses affaires personnelles. Par le plus grand des hasards, il va rencontrer une Canadienne anglaise, enceinte, pas de Patrick, mais Patrick va reconnaître l'enfant et il va voir une espèce de porte de sortie avec cette femme. Il va partir en 1954 pour éviter le service militaire à Vancouver, où il va vivre comme bûcheron, alors que son épouse est une bourgeoise, mais il va pas du tout s'entendre avec ses beaux-parents. Il va vivre comme peintre en bâtiment, bûcheron, etc., pendant quelques années, et il va rêver du Québec. Et il arrive au Québec avec ses illusions en 58. En 58, le chef est encore vivant. Et Patrick ne comprend pas ni la mentalité, disons, démocratique, ou est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire un peu conformiste, traditionnel, des Québécois, paysannes, hein, le fait qu'on est tous ensemble et qu'on se tient, parce que c'est un problème très fort au Québec. Et en même temps, la rupture, parce que quel que soit le mal qu'on peut penser de Maurice Duplessis, néanmoins, il a eu une politique qui n'est pas très très loin de celle du Parti québécois, c'est-à-dire une idéologie nationaliste, mais une pratique économique capitaliste. Évidemment, lui, il avait comme idéologie une idéologie fondée sur le cléricalisme, tandis que la Révolution tranquille va avoir ce coup de génie qui consiste à se débarrasser du clergé très très rapidement et de se débarrasser de l'enveloppe cléricale. Je vous renvoie, je ne sais pas si on la lit encore aujourd'hui, à la thèse de Colette Moreux sur « Fin d'une religion » où Colette Moreux soutenait la thèse dans le début des années 70 que finalement le Québec n'était pas véritablement un pays catholique et que c'était un conformisme social que le catholicisme. C'est pour ça qu'il s'est écroulé aussi vite. En tout cas, Patrick va arriver dans un milieu qu'il ne connaît pas, qu'il ne se donne pas la peine véritablement de comprendre, et il va essayer de refonder ici un groupe avec des gens qui sont les gens de parti pris, qui vont être les gens qui vont être les plus dynamiques sous le gouvernement Lesage et qui vont être les clés du gouvernement tranquille, entre autres, par exemple, de la Révolution tranquille, Pierre-Elliott Trudeau, mais qui, eux, sont d'une part des bourgeois, mais ne reconnaissent pas en Patrick le bourgeois, et puis vont s'amuser de lui, vont lui donner des petits bouts, mais finalement vont, grosso modo, l'écarter. Je pourrais entrer dans le détail, je sais beaucoup de choses, mais je vous recommande à vous d'aller aux archives de Montréal, vous y trouverez pas mal de choses, entre autres le discours double de Patrick Straham, parce que d'un côté, il allait faire le baise-main à ces gens-là, et puis de l'autre côté, on voit ce qu'il en pense, et il leur envoie des craques, et il n'est pas du tout dupe de leurs apparences non conformistes. Et puis, quand il les voit rouler dans des voitures de luxe, et que lui, il n'a même pas 25 sous pour mettre dans l'autobus, pour prendre l'autobus et aller rencontrer Pierre-Elliott Trudeau à l'autre bout de Montréal, il en a plein la patate. Alors, je vais simplement... Comment ?
Pierre Tissot. Non, mais il y a eu aussi avec Pierre-Éliott Trudeau, il y a eu des contacts.
Oui, oui, bien sûr.
Ah oui.
Ah ben oui, oui. Pour la voiture pour...
Peut-être pour la voiture. Je pensais que vous parliez dans sa nouvelle T4One, où il se rend à l'autre bout de Montréal, justement, pour...
Ouais, mais il y en a d'autres dans les papiers. Oui, vous avez raison de me reprendre. Vous savez, bon, c'est des textes que j'ai lus il y a 7-8 ans. Il y a des choses que j'ai oubliées. En tout cas, il est en porte-à-faux. Il participe d'une façon très marginale à la Révolution tranquille. Et puis finalement, en 67-68... il s'en va en Californie. Le problème, c'est qu'il ne s'adapte pas plus à la Californie, d'une part parce qu'il apprend jamais l'anglais. Je ne le critique pas, le pauvre Patrick, mais enfin, il ne s'intègre pas là-bas. Mais là-bas, il rêve, il se sent plus proche peut-être d'une certaine contre-culture. Il change de nom, il se fait appeler le Bison Ravi, vous connaissez l'ambiguïté du nom, puisque c'est un retour vers ses racines françaises, puisque c'est l'anagramme de Boris Vian, et en même temps, il se veut indien. Il revient ici en 70, en septembre 70, 70 ou 71, 70, les événements d'octobre, c'est en 70. 70, hein, oui. Il revient ici en 70, déguisé en indien. Dieu sait s'il était innocent, mais il fait partie des gens qui sont arrêtés pendant les événements d'octobre, ce qui lui donne un petit peu de prestige. Et il essaye de reconstituer un milieu intellectuel en attribuant, en donnant des noms d'Indiens à la plupart de ses amis, mais en réalité, il n'arrive pas à s'intégrer. Alors j'en ai noté quelques-uns, je vous l'ai dit comme ça en passant. Alors, Gilles Groux, c'est le lynx inquiet. Madeleine Gagnon, la gentille lionne. Hervé Lapointe, le héron tapis levé. Gaétan Tremblay, le chat-tigre du Cap-Octobre. Jean-Marc Piot, Pio le fou. Roland Lebrun, le puma tavernal. André Roy, le soleil marginal. Nicole Brossard, la merveilleuse énigme brûlante.
Brûlante.
Louis Geoffroy, l'obscène nyctalope. Dean Mousseau, la délirante magistrale. Denise Boucher, l'ours fantasque. André Valois, le caribou tannant. Il y a Big Chief Léo Pichet, ça je sais pas qui c'est. Monique Mercure, elle est la panthère ravie. François Hébert, le renard peu à peu. France Théoret, l'épervière Far Cry. Paul Baillargeon, l'antilope Altaïr. Philippe Aec, le lézard papillon. Il y en a bien d'autres, hein. C'est ce que j'ai relevé dans ces textes. Il se reconstitue une communauté imaginaire, mais en réalité, il est complètement déphasé, il survit et il termine son existence d'une façon extrêmement triste, lâché par tous ses amis en réalité, errant, buvant, malade, solitaire en réalité, à la fin voulant essayer d'être un joint, de rejoindre ces deux cultures, la culture québécoise et la culture française, n'y parvenant pas. Et pour terminer, je vais simplement vous lire un passage, je voulais commencer par là, en réalité, puis je ne l'ai pas fait, d'une lettre que j'ai trouvée dans les archives, qu'il adresse à Gilles Deleuze en 83, où il résume sa vie. Alors il essaye de compenser l'échec immense qu'a été sa vie artistique, intellectuelle, en se construisant une légende, et en réalité... tout de suite après sa mort, ben, il sera oublié. Les quelques livres qu'il a publiés seront oubliés. Et c'est seulement aujourd'hui, grâce à quelques étudiants québécois qui ont fait des travaux sur lui, qu'on commence à reparler de lui. Alors, je vais terminer donc en lui laissant la parole. Cette lettre à Deleuze du 28 juillet 83, où il résume sa vie. Après 2 mois en seconde à 14 ans, je décide d'abandonner études et famille. À 15 ans à Saint-Germain-des-Prés, je suis dans la rue, où je suis demeuré jusqu'à 20 ans, et suis retourné souvent ensuite, au Québec ou en Californie, assisté social. J'y suis presque encore aujourd'hui, ayant décidé à 25 ans à Montréal, depuis 1 an, après divers emplois de travailleur du bois, à commis à la salle des nouvelles télévisions de Radio-Canada, ou de garçon de table dans une taverne à travailleurs dans la construction, de ne plus jamais travailler que si étaient utilisées mes capacités, écriture, radio, cinéma, animation, socio-culturelle. Décision jamais trahie jusqu'à maintenant, à quelques mois d'avoir un demi-siècle d'âge. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Jean-Marie Apostolides, pour ce portrait de Patrick Straram. On en connaissait des bribes, mais je pense que très peu de gens, en fait, ici, connaissent vraiment l'ensemble, le parcours, d'où il vient, le bison ravi, comment est arrivé ici et ce qu'il a tenté de faire, et en même temps, comment son échec, c'est un cas d'échec, il faut quand même le reconnaître, mais c'est un échec symptomatique, comme d'autres au Québec. Je vais y venir tantôt, peut-être avec une question, mais productif, et qui nécessite d'être évalué. Je pense que vous avez aussi attiré l'attention qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans les archives de Patrick Straram à la Grande Bibliothèque. Vous-même, vous avez édité avec Boris Donné plusieurs textes. Et effectivement, pour les étudiants à la maîtrise ou au doctorat, ce serait décidément là quelque chose à explorer. Il y a un intérêt maintenant, il y a un regain d'intérêt pour la contre-culture qu'on a un peu trop vite, je pense, balayé sous le tapis dans les années 80-90 et qui revient. Donc, possiblement, il y aura des travaux importants de ce côté-là. Mais bon, avant que de poser peut-être moi-même une question éventuellement, j'aimerais que la salle prenne la parole.
Avant de vous les commenter, je veux dire une chose. La cassure entre Straram et le milieu québécois me paraît exemplaire quand il a publié en 1960 le numéro 1 et le seul numéro du cahier pour un paysage à inventer, où d'un côté il a demandé des textes à ses amis de France, Steglov, Debord, etc. Et de l'autre côté, il a demandé aux intellectuels québécois d'écrire des textes sur les mêmes thèmes et où on a vraiment, véritablement là, l'impression de deux solitudes. C'est-à-dire, ni Debord ni ses copains ne connaissent rien du tout à la situation québécoise. Et pour Miron et ceux qui ont participé au numéro, ils comprennent absolument rien au discours proto-situationniste de Straram. Alors, les trois livres, celui-là, le premier, Les bouteilles se couchent, on l'a reconstitué, parce que Straram n'y perd rien, il conserve tout. La famille Straram sont des obsessionnels. Éric Straram m'a dit, au premier trimestre, je suis allé le voir à Paris, le jeune frère de Patrick, il m'a dit, chez nous, on garde tout. Patrick aurait dû tout garder, y compris ses tickets de métro, mais à plusieurs occasions... la resserre où il avait gardé ses documents a brûlé, où tout lui a été volé. Mais néanmoins, malgré ces faits, il reste aux archives de Montréal énormément de documents. Alors pour ces textes, des textes qu'il écrit vers 16, 17, 18 ans, il ne les jette jamais. Il les recycle dans d'autres textes. Il y a un roman mythique à propos d'un groupe d'avant-garde, l'International Lettriste, dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'il a été extrêmement important entre 1951 et 1956 ou 57. C'était Debord le chef de ce mouvement d'avant-garde. Le seul document ou les rares documents concrets qu'on a, quoique personnellement j'ai trouvé chez des gens en France d'autres documents qu'on va publier bientôt avec Boris Donné, mais les seuls documents sinon qui étaient accessibles sont à Montréal, dans les archives de Straram. Alors entre autres, dans un de ces romans très longs et impubliables qu'on a trouvé, en le regardant de près, on s'est aperçu qu'il y avait différentes couches et on a été capable, en coupant, de reconstituer à peu près ce roman qu'il a écrit à partir de la vie quotidienne du bistrot Moineau. J'ai pas beaucoup parlé du Bistrot Moineau. J'aurais dû à partir de Patrick Modiano, parce que Patrick Modiano s'est accaparé il y a 2 ou 3 ans le Bistrot Moineau dans sa dans son propre imaginaire. Mmh. Il en a fait d'ailleurs un livre très beau qui s'appelle Dans le café de la jeunesse perdue. Et je suis certain, pour des tas de raisons, qu'il est encore en train de préparer quelque chose là-dessus. En tout cas, ça, c'est une description du Bistrot Moineau que Straham a fait bien des années avant Modiano, et Modiano s'est emparé de ça et des 2 autres livres pour construire son propre livre. C'est pas une critique que je lui fais, hein. Un écrivain a le droit de se servir là où il veut, c'est une règle absolue dans les arts. Donc ça, c'est un document, littérairement ça n'a pas de valeur, mais c'est un document sociologique sur la vie quotidienne chez Moineau. La veuve Blanchet-Noir, c'est un texte autobiographique qui a peut-être été prononcé à la radio les rares fois où Straham en a parlé. C'est la description d'une aventure mythique, c'est-à-dire son dépucelage quand il avait 17 ans par une femme d'origine iranienne de 36 ans. Il a complètement mythifié cette histoire alors qu'il a jamais parlé ni même fait, ou de très très rares allusions qu'on peut comprendre quand on lit bien, à ses rapports homosexuels. Il a au contraire complètement mythifié cette histoire, alors que pour la femme en question, qui s'appelait Marthe, c'était une aventure sans lendemain. Elle s'est rendue compte que le gars, bon, était gentil, joli, il avait 17 ans, elle en avait 36, mais était en train de se brûler complètement. Elle a sincèrement essayé de faire quelque chose pour lui, elle a échoué et elle a eu le sentiment que ce gars-là allait rater sa vie, et puis elle est partie aussi vite. Mais même si le texte est idéologiquement complètement orienté, c'est-à-dire Straham est complètement aveugle sur ce qui se passe véritablement, on avait pensé que ça valait le coup d'être publié. Ça permettait en même temps d'inscrire dans la préface des documents que personne ne connaît et qu'on a voulu garder. D'un autre auteur aussi, ouais. Tout à fait, vous avez absolument raison, c'était l'occasion aussi de mettre en application le détournement. Ça, c'est peut-être la partie la plus intéressante, et du côté de la France et du côté du Québec. En 60, au moment du cahier pour un paysage à inventer, Debord, qui avait beaucoup de respect pour Straham, a repris contact avec lui. Et ils ont échangé pas mal de correspondances qui se trouvent en partie à Montréal. Les lettres ne sont pas au complet, mais il y avait un carbone d'une longue lettre que Straham a écrite à Debord, qui m'a semblé digne. Alors, c'était un certain boulot pour la mettre au clair, parce que le carbone est à peine lisible, mais enfin, petit à petit, on apprend à faire ces choses-là, et on a voulu la replacer dans le contexte du développement de l'international situationniste. Ça éclaire pas mal de choses de la revue internationale situationniste, parce que Debord, à un moment, a vraiment voulu achever le projet qui était celui de l'international lettriste, et Straham a fait partie du mouvement de l'international lettriste, dans l'IS. Et comme il savait pas à qui s'adresser, parce qu'il était, Debord était très très isolé, il est revenu vers ses anciens copains. Donc, mais Henri de Béarn, lui, commençait à amener une autre vie, s'intéressait plus à la vie intellectuelle. Stegloff était dans un asile d'aliénés et plus en état vraiment d'être un véritable compagnon. Et Straham était au Québec, perdu dans ses bébelles québécoises. Alors, ils ont quand même, Guy Debord et Michel Bernstein, ont quand même essayé de les recontacter tous les trois pour qu'ils viennent renforcer les troupes de l'international situationniste. Ça n'a pas marché, ultimement ça a échoué. Straham est parti de son côté, et là où il est parti, il s'est finalement, il est entré dans le moule du nationalisme québécois. Mmh. Alors qu'au départ, il est antinationaliste, comme sont tous les jeunes Français de son âge. C'est normal, puisque pour nous, nationalisme est égal nazisme. Donc, on ne pouvait pas être nationaliste, même en venant au Québec. C'était impossible d'être nationaliste. On connaissait trop les dangers du nationalisme. Mais néanmoins, le pauvre Strahan, sans doute pour survivre, eh bien, il devient nationaliste. On sent qu'il n'y croit pas, mais il le devient quand même. Alors, la lettre, elle n'est pas méprisable. C'est Strahan à son meilleur, quand il se donne la peine de réfléchir. Bon, il n'a pas la force. Strahan, il n'est pas de bord, hein, c'est sûr. Mais néanmoins, ce n'est pas du tout méprisable. Et moi, j'ai trouvé, je ne vous dirai pas lesquels, parce qu'il y en a peut-être un ou deux que je publierai moi-même ou que je publierai avec Boris. Mais je dois vous dire que, il me semble que c'est le rôle des Québécois plutôt de donner un avenir intellectuel à Strahan, sans faire un grand écrivain, mais une figure importante de la vie intellectuelle québécoise. Donc, republier certains de ses livres et publier des manuscrits qui sont aux archives. Je vous le dis à vous qui soit n'avez pas encore votre doctorat, soit l'avez, mais récemment, il y a vraiment des choses à trouver là-dedans. Il y a des choses à faire. Or, n'y allez pas pour découvrir un grand auteur inconnu, parce que là, vous serez un peu déçus. Mais une figure culturelle marginale qui n'est pas du tout méprisable, oui, ça vaut le coup. À mon avis, ça vaut le coup. Et puis le travail d'archives, c'est passionnant. C'est passionnant. Ouais, des choses fragiles dans des journaux. Gilles, je vous le passe à vous, mais il faudra que vous le passiez à vos étudiants. À mon avis, il y a un recueil de ces articles. Pas seulement ceux de parti pris, mais dans des revues obscures qui ont 2 ou 3 numéros. Il a effectivement beaucoup écrit. Et...
moi, j'ai
comme je vous ai dit, il les envoyait en France, je les ramènerai moi aux archives, on en fera don aux archives. Et il y a au moins un livre, dans les choses à publier, il y a au moins un livre de ces articles. Et pas seulement ceux de parti pris.
Ah non, c'est ça.
Oui, il y a sûrement un avenir pour le malheureux Patrick. Ouais. C'est vrai, mais il est toujours marginal en ce sens. Enfin... bon, vous me direz, j'ai peut-être une optique de petit bourgeois, et c'est vrai, je l'admettrai volontiers. Mais il n'a jamais un job. Il est incapable de nourrir ses enfants. Ces deux gars, ils sont dans la rue, ils le sont sans doute encore aujourd'hui. Il est incapable de fonder une famille. Il est bon, vous me direz, Gauguin, c'était peut-être la même chose. La question qu'on peut se poser, et nous tous... est-ce qu'on a le droit, si on est célibataire, ça va, mais Patrick, il fait des enfants. Est-ce qu'on a le droit de sacrifier une famille, même pour une œuvre de génie, dans le cas de Gauguin? Et dans le cas de Patrick, ce n'est pas une œuvre de génie, hein, loin de là. Alors, est-ce qu'on a le droit? Je n'ai pas de jugement. Moi, je vous dirais simplement, en tant que petit bourgeois, ma réponse, c'est non. Notre premier boulot, c'est d'élever les gamins. Après, si on a de quoi faire une œuvre de génie, tant mieux. Mais donc, notre premier... alors que le Québec, objectivement, hein, j'ai connu beaucoup de Français qui se plaignaient du Québec, mais il y a quand même une chose qu'il faut dire, hein, c'est que le Québec, un certain nombre de gens, y compris moi, dans ces années-là, nous a donné à bouffer. C'est quand même pas négligeable. On a quand même été reçus. On se faisait peut-être traiter de maudits Français, mais on a quand même eu à manger. Ceux qui voulaient fonder une famille ont pu. Dans l'enseignement, bon, il y a Michel, il y a eu Beugnot, il y a eu moi. Dans le cinéma, dans le théâtre, il y a eu Olivier Reichenbach, il y a eu Ronfard. Bon, il y en a eu plein. On a quand même été accueillis. Donc, ceux d'entre nous qui ont fait une famille... notre rôle, c'était de l'éduquer, puis de mettre sous le boisseau les différences culturelles de façon à être accepté dans ce milieu. Patrick, il a fait toute sa vie en sorte de ne pas être accepté, de jamais avoir une job. Ça a été au détriment de sa famille. Alors là-dessus, vous m'en voudrez peut-être, tant pis. Mais moi, je trouve ça lamentable, si vous me permettez.
Mais il a sacré son camp aussi. Il a sacré son camp de sa propre famille.
Ouais.
Il n'y a pas eu l'influence.
Mais par rapport à ce qu'il aurait pu faire, j'ai essayé d'insister sur ce qu'il savait. Il est arrivé avec un bagage culturel. Je veux dire, n'oubliez pas que même Debord, qui était une toute autre pointure intellectuelle, était fasciné par Straram, tellement Straram savait de choses. Straram, c'est une mine. Ça, pas, il ne l'a pas exploité, ça. Et il ne l'a pas exploité, peut-être en partie en raison du nationalisme culturel, mais surtout à cause de lui. C'est un peu trop facile de dire que les Québécois avaient l'esprit fermé et ne voulaient pas de nous. Ce n'est pas si simple que ça. Puis en plus, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Les Français d'origine qui ont raté leur vie ici, c'est qu'ils l'ont voulu. C'est pas les Québécois qui leur ont fait rater leur vie. C'est qu'ils l'ont voulu.
De toute façon, comme vous dites, à un moment donné, il a essayé, mais Debord lui était fermé. Quand il a essayé d'intéresser Debord à Miron et autres, Debord a dit ça vaut pas de la, ça vaut de la merde.
Oui, c'est ça qu'il a
c'est
dit.
C'est Debord. Debord a dit ça, Debord. Mais pas. Ben non, enfin, il a dit comme ça. Je...
Non, en fait, c'est mais il compare à un autre des grands poètes français.
C'est ça, c'est inintéressant, justement. C'est ça.
Oui, mais Debord, à la fois, était très ouvert, mais il était quand même étroit d'esprit. Dans
alors que Straram lui essayait de convaincre Debord qu'il y a quelque chose à faire, mais ça, non.
Quand tu es élevé dans les valeurs petites bourgeoises, peut-être comme toi ou comme moi, et c'est là ce que j'ai voulu vous transmettre tout à l'heure, le premier devoir qu'on a, c'est d'être autonome et de se donner de quoi bouffer, et puis, si on fonde une famille, d'être responsable pour les gamins qu'on a faits et l'épouse qu'on a prise. Mais effectivement, quand on vient de la grande aristocratie, qu'on se prend pour l'élite, et qu'en un sens, on est l'élite, parce que Straram, jeune, a fréquenté les grands acteurs et tout. Vous regarderez dans ses archives, dans ses carnets d'adresses, il y a le nom des grands acteurs de l'époque qui fréquentent, qui connaissent. Effectivement, il peut se conduire comme un aristo. T'as raison, Catherine. Mmh. Il se conduit dans son ratage. C'est sa seule façon d'être un aristocrate et peut-être de se réconcilier avec lui-même.
J'ajouterais aussi qu'au Québec, parce que vous disiez il n'y a pas cette aristocratie, d'accord, mais les écrivains qui ont tenté d'incarner à leur façon cette aristocratie ont tous échoué de certains sens, et je dirais Jacques Ferron, Hubert Aquin et André Baudet. Ouais. Voilà trois personnes qui ont voulu incarner cette aristocratie dans l'écriture, dans la pensée comme intellectuelle, et ils ont tous raté à ce niveau-là.
Mais je connais les deux autres.
À ce niveau-là, sans doute, alors ça, ce serait les anti-VLB, les contre-VLB, les contre-Léandre de Bergeron, etc.
Ouais, d'accord. OK, merci beaucoup.
Merci à vous tous.
Merci.
Très bien.